Radio Prague, les informations.
Bonjour, bienvenue à l'écoute de Radio Prague, la rencontre à Prague de Miloš Zeman avec son homologue polonais. Presse pour Lubomir Zaorálek, les Russes approvisionnent l'Europe en réfugiés. Et puis, le zoo de Prague s'apprête à un nouvel envoi de juments de Przewalski en Mongolie. Comme l'annonce l'un des titres, la coopération des pays du groupe de Visegrad, la crise migratoire ou l'accord de l'Union européenne avec la Turquie, tels étaient les principaux sujets discutés par le président tchèque Miloš Zeman et son homologue polonais Andrzej Duda lors de la première visite de celui-ci au château de Prague ce mardi. Les chefs d'État ont également parlé des relations tchéco-polonaises que les deux estiment comme excellentes et se sont décorés réciproquement par les plus hautes distinctions des pays, l'ordre du Lion Blanc et l'ordre de l'Aigle Blanc. Enfin, le président Miloš Zeman a exprimé son opinion sur la critique de l'Union européenne à l'adresse de Varsovie en raison de certains changements antidémocratiques adoptés ces derniers temps par le gouvernement conservateur en soulignant que ce dernier est fruit des élections démocratiques. Le gouvernement polonais ne devrait pas faire face à la critique moralisante de la part de l'Union européenne qui devrait se concentrer plutôt sur la protection de ses frontières, a-t-il déclaré. D'après le ministre tchèque des Affaires étrangères, Lubomír Zaorálek, les Russes profitent de la crise migratoire à laquelle fait face l'Europe. Dans l'entretien qu'il a accordé au quotidien Hospodářské noviny paru ce mardi, le social-démocrate affirme même que la façon dont nos frères slaves nous aident à nous approvisionner le plus possible en réfugiés est prouvée. Le chef de la diplomatie tchèque dit tenir l'information du sommet européen auquel il a participé lundi à Bruxelles avec ses collègues des autres États membres. Dans son interview, Lubomír Zaorálek poursuit en indiquant qu'une fois la route dite des Balkans fermée, les réfugiés pourraient utiliser un autre itinéraire pour parvenir dans l'espace Schengen, un itinéraire qui pourrait passer par la Russie, pays qui par ailleurs, sauf exception, ne leur délivre pas l'asile. Lundi à Bruxelles, le ministre tchèque a déclaré que Prague serait prête à soutenir l'extension envisagée des sanctions à l'encontre des personnalités russes impliquées dans l'affaire Nadia Savchenko. Accusée d'avoir tué deux journalistes russes par des tirs d'artillerie, cette pilote ukrainienne doit être jugée prochainement à Moscou, un cas monté de toutes pièces et abject selon M. Zaorálek. Le vice-premier ministre et ministre des Finances, Andrej Babiš, va annuler son congé afin de pouvoir participer à une réunion extraordinaire du Parlement relative à l'affaire du nid de cigogne qui se tiendra le mercredi 23 mars prochain. J'interviendrai sur cette réunion et j'expliquerai avec plaisir toutes les désinformations apparues dans les médias ces derniers jours, a-t-il annoncé. Cette réunion est organisée à la demande de l'opposition des partis ODS et Top Zero Nef qui soupçonnent Monsieur Babiš d'une fraude aux subventions européennes versées à la construction de la ferme appelée le Nid de Cigogne, faisant partie de son groupe agroalimentaire Agrofert. Le zoo de Prague prépare l'envoi par avion de 4 nouvelles juments de la race des chevaux de Przewalski en Mongolie, opération qui doit se dérouler en deux temps à la mi-juillet grâce au concours d'appareils de l'armée tchèque. Un transport similaire a été réalisé l'an passé à la même époque. La différence tient cette fois-ci au fait que les animaux seront répartis entre les différentes réserves mongoles, bien que leur destination première sera une nouvelle fois la réserve Gobi Bay. Directeur du zoo de Prague, Miroslav Bobek, indique que les quatre juments doivent provenir pour l'une d'entre elles du Danemark et pour les autres d'Allemagne. Le parc zoologique de Prague joue un rôle majeur dans les efforts pour sauvegarder cette espèce qui a failli disparaître et n'a évolué qu'en captivité depuis les années 1960. Depuis 2010, des individus de la race des chevaux de Przewalski sont régulièrement envoyés en Mongolie, leur terre d'origine. On se termine comme toujours avec la météo. Mercredi, jour de la fête des routes, c'est un temps principalement couvert avec par endroits de la pluie et de la neige. Les températures vont de 3 à 7 degrés pour les maximales. C'est la fin de ce bulletin information qu'a eu le plaisir de vous présenter Alžběta Tichá. Merci de votre attention et on retrouve maintenant Anna Kubišta qui nous a rejoint au studio et nous accompagne pour la suite de cette émission. Très bonne écoute.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et merci à Alžběta Tichá pour son bulletin d'information. De plus en plus de ressortissants de pays tiers travaillent dans les hôpitaux tchèques, palliant le déficit de médecins et professionnels de la santé tchèque qui, eux, partent à l'étranger. Entretien ensuite avec Alexandre Brachet, producteur français de web documentaires et qui était présent à Prague dans le cadre de ListDoc Platform. Et puis, dans notre rubrique d'aujourd'hui, coup de projecteur sur l'association Humanitas Africa. Bonne écoute de ce programme. Je vous le disais en titre, face à l'exode de leurs professionnels de la santé et lassés par de mauvaises conditions salariales, les hôpitaux tchèques sont contraints de compenser les pénuries de personnel en employant un nombre de plus en plus important d'étrangers. Selon les chiffres communiqués lundi par la Chambre tchèque des médecins, plus de 2500 médecins étrangers travaillent actuellement dans les hôpitaux du pays, soit 5 fois plus qu'au moment de la chute du régime communiste en 1989. Plus de détails avec Guillaume Narguet.
Avoir affaire dans un hôpital de Prague ou de province à un médecin ou à une infirmière parlant certes tchèque mais avec un accent est devenu chose tout à fait courante. Souvent, il s'agit alors d'un personnel originaire de pays plus à l'est que la République tchèque. Si les Slovaques restent et de loin les médecins étrangers les plus nombreux à exercer en République tchèque, leur intérêt est néanmoins moindre qu'il y a quelques années de cela. La différence entre les salaires proposés dans les hôpitaux tchèques et slovaques tendant à se réduire et à devenir minimale. Pour autant, comme l'explique son président Milan Kubek, la Chambre tchèque des médecins recense de plus en plus de médecins étrangers.
Au moment de la partition de la Tchécoslovaquie en 1993, c'est-à-dire lorsque les Slovaques sont devenus des étrangers en République tchèque, nous recensions 449 médecins étrangers. L'année dernière, ils étaient 2557, mais qu'il s'agisse des médecins slovaques, ukrainiens ou russes, la République tchèque ne représente pour beaucoup d'entre eux qu'un pays de passage. Ce qui leur importe, c'est d'obtenir la reconnaissance de leur diplôme dans un pays linguistiquement proche du leur, de façon à pouvoir ensuite partir pour de meilleurs salaires en Allemagne ou en Grande-Bretagne, comme le font les médecins tchèques.
Les médecins tchèques, justement, en 2015, plus de 200 d'entre eux, fraîchement diplômés, ont fait le choix d'aller travailler directement à l'étranger, tandis que plus de 350 autres de leurs collègues qualifiés ont formulé une demande auprès de la Chambre tchèque des médecins afin d'obtenir les documents nécessaires à une embauche à l'étranger, essentiellement dans les pays de langue anglaise et allemande. Si tous ne sont pas partis, ce sont au total plus de 400 médecins tchèques qui ont abandonné le système de santé local ou n'ont même pas intégré celui-ci. Du coup, les hôpitaux tchèques remplacent ces médecins manquants par d'autres médecins en provenance de pays étrangers dont certains n'ont pas été formés dans les facultés tchèques, une situation qui pose certains problèmes selon Milan Kubek.
Nous ne sommes pas favorables, par exemple, à ce que les médecins originaires des pays des anciennes républiques soviétiques soient autorisés à passer une partie de leurs examens en russe. Cela ne me semble pas normal. Mais s'il s'agit d'un médecin slovaque qui vient travailler en République tchèque, alors nous avons la garantie que les facultés de médecine en Slovaquie sont tenues de respecter les standards établis par l'Union européenne. Comme ce n'est pas toujours le cas pour les autres pays tiers, il y a forcément certains doutes relatifs à la qualification de leurs médecins. Mais comme les directeurs des hôpitaux sont confrontés à des effectifs insuffisants, ils en viennent à employer plus ou moins le tout venant, pour ainsi dire.
€1,120 était le montant du salaire mensuel moyen brut pour l'ensemble des personnes employées dans le secteur de la santé en République tchèque en 2013, infirmiers et aides-soignants compris. Pour les médecins et les dentistes, ce montant s'est élevé au double, mais seulement au prix de centaines d'heures supplémentaires effectuées durant l'année. À titre de comparaison, le salaire proposé actuellement en Allemagne à un médecin débutant dans un hôpital est de 4 220 euros contre 870 euros en République tchèque. Pour augmenter le niveau de rémunération, la Chambre tchèque des médecins, les hôpitaux et les syndicats réclament donc au ministère de la Santé des dizaines de milliards de couronnes supplémentaires qu'ils n'obtiendront cependant très probablement pas.
Parallèlement au festival One World, 400 professionnels du film documentaire en provenance de toute l'Europe ont participé à List Doc Platform qui s'est tenue à Prague à l'Institut Cervantes la semaine dernière. En collaboration avec l'Institut du film documentaire, 220 documents en phase de développement, de production ou de post-production étaient inscrits au programme de ce qui constitue la plus importante manifestation du genre organisée en Europe centrale et de l'Est. Parmi les invités, Alexandre Brachet, un producteur français de web documentaire qui fait participer la République tchèque à son programme Génération Quoi, Capucine Jaffé. À la tête du Pion depuis sa création en 1998, Alexandre Brachet est à la fois homme d'affaires et activiste politique. La société conjugue en effet production de sites internet de médias français et création de web documentaires engagés et novateurs. ISDoc Platform lui a permis de proposer son projet Génération Quoi, mais de quoi s'agit-il concrètement ? C'est une série documentaire résultant d'une enquête menée auprès de jeunes. Selon son auteur, ce projet sociologique a pour dessein de laisser la parole à la jeunesse européenne dans son intégralité. Pas question ici d'exclure les discours les plus radicaux, l'objectif étant plutôt de proposer un reflet de la société européenne dans son ensemble. À Prague, Alexandre Brachet a donc présenté la version tchèque de ce programme.
On lance un programme en République tchèque ces jours-ci. Donc c'est la version tchèque de Génération Quoi, Generation What, qui est devenu un projet européen avec 13 pays, dont la République tchèque. Donc du coup, ça représente c'est un moment assez intense et même un peu... je suis un peu ému, puisque c'est la première fois que je vois le site en tchèque se déployer. Donc voilà, donc c'est un moment un peu particulier de voir que cet esprit européen, que moi je défends évidemment, il prend corps aussi dans la coproduction, dans les programmes. Puis là, on va essayer du coup d'interroger la jeunesse européenne, voir s'il y a une génération européenne. Et puis surtout, en fait, c'est surtout l'occasion de la montrer, cette jeunesse, quoi.
Miser sur la jeunesse fait sens pour Alexandre Brachet. En promouvant la diffusion de programmes inédits uniquement sur Internet, le producteur attire de facto un public de plus en plus jeune. Mais cette nouvelle façon d'envisager le documentaire, et plus largement la télévision, n'est pas seulement d'ordre générationnel. En collaborant avec Arte, Upian s'efforce donc de réinventer le documentaire.
Alors, en tout cas, la question qu'on se pose tout le temps, c'est qu'est-ce que je peux faire sur Internet que je ne peux pas faire à la télévision ? Donc en fait, il n'y a pas une seule réponse, mais à chaque fois, une réponse adaptée à l'histoire qu'on veut raconter. Par exemple, dans un des derniers programmes qu'on a produit qui s'appelle Do Not Track, on va aborder la question de la privacy, des données personnelles. Chaque fois que vous vous connectez sur Internet avec votre téléphone ou avec votre ordinateur, tout ce que vous faites est enregistré, stocké par des entreprises privées. Et donc pour nous, c'est un sujet extrêmement important et on pense que il y a une notion de, comme disent les Américains, d'awareness qu'il faut informer. Et donc pour raconter ce sujet de la privacy, on utilise Internet d'une manière qui fait que c'est l'endroit idéal pour raconter cette histoire, puisqu'on s'appuie sur les données de chacun des spectateurs pour fabriquer l'histoire. Ça veut dire qu'on va vraiment personnaliser le récit en fonction du lieu où on habite, du matériel qu'on utilise, mais aussi des données qu'au fur et à mesure on va récolter sur les spectateurs. Donc c'est vraiment un récit personnalisé, et ça, par exemple, il n'y a que sur Internet qu'on peut le faire. En termes de...
L'interactivité est en effet l'intérêt du web documentaire. Cette personnalisation qui diffère des productions télé classiques possède, selon Alexandre Brachet, un réel impact sur les téléspectateurs.
Par contre, en termes d'impact, ça c'est un énorme sujet, et notamment sur Do Not Track, la notion d'impact, c'est quelque chose qui est inhérent au programme. Et donc quelques chiffres, on a sur 1 200 000 spectateurs, il y a 30% des spectateurs qui disent que ça a vraiment changé leur compréhension du sujet, et il y a 20% qui disent qu'ils ont changé leurs habitudes de surf.
Mais le producteur ne s'arrête pas à cette mission. La transition numérique des médias est aussi en adéquation avec son militantisme. Celui qui, en 2010, déclarait dans Télérama « Plus j'avance, plus je me radicalise », a un avis bien délimité sur les problématiques qui frappent la société française. Partisan d'une création engagée, Alexandre Brachet veut repenser la société.
Bon, en ce moment, en France, il y a un contexte politique un peu particulier, puisque Il y a à la fois l'extrême droite qui est très puissante et puis un espèce de ventre mou avec une gauche dont on sait plus bien ce qu'elle raconte et ce qu'elle veut dire. À force de regarder comment le monde fonctionne et comment les gens vivent, et je pense que forcément on fait partie des gens qui sont les plus engagés et en tout cas qui portent des valeurs de progrès et notamment sur les questions de société, sur les questions de famille, sur les questions de travail, sur les questions d'immigration, sur les questions de drogue, sur les questions d'accès au logement, d'éducation. Je pense qu'il y a un vrai besoin là de, en fait, d'avoir un projet de société, quoi. Et c'est un peu ce qui manque aujourd'hui.
Direction donc sur le site upion.fr pour consulter les web documentaires en accès libre et participer à ce projet de révolution médiatique. On passe tout de suite à la deuxième partie de notre émission. Basée dans le centre de Prague, l'association Humanitas Africa est née en 2000 avec pour but de rapprocher Tchèques et Africains. Elle propose différentes activités au public tchèque et organise une aide humanitaire dans plusieurs pays d'Afrique. Alžbeta Ticha a rencontré Eli Lusaku, ce Congolais d'origine qui vit en République tchèque depuis 17 ans, a rejoint Humanitas Africa en 2008. Dans la première partie de cet entretien, Eli Lusaku présente le centre africain à Prague et ses principaux objectifs.
Panorama.
Panorama.
Humanitas Africa, c'est une ONG qui a été créée dans le but, de contribuer à une meilleure compréhension entre les Africains qui vivent ici et les Tchèques, en permettant donc aux Tchèques de mieux connaître l'Afrique et aussi aux Africains de mieux approcher la culture tchèque. En même temps, il y a eu aussi à côté l'intention d'essayer d'aider des communautés en Afrique, mais ça c'était plus pour répondre en fait au désir de certains Tchèques en fait de pouvoir se rendre utile aussi pour résoudre les problèmes qui sont en Afrique.
Mm-hmm. Comme vous avez déjà dit, donc Humanitas Africa a deux principales missions, on peut dire.
Oui.
D'une part, cette aide humanitaire, d'autre part, la promotion de l'Afrique ici en République tchèque. Donc parlons d'abord de cette dernière. Radio Prague a fait un reportage il y a environ 10 ans sur l'ouverture à Prague du centre africain. Rappelez-vous, s'il vous plaît, à quoi sert ce centre ?
Comme son nom l'indique, Centre d'information sur l'Afrique, c'est un centre qui désire informer le public tchèque sur ce qu'est l'Afrique. En fait, on sait qu'il y a beaucoup de médias qui parlent de l'Afrique, mais notre impression a été que les médias vont surtout à la recherche des sujets qui font sensation ou qui entrent déjà dans une certaine ligne, de médiatique. Où souvent on parle des guerres, de la pauvreté ou de certains problèmes, souvent négatifs. Donc nous avons trouvé qu'il y avait un espace qui n'était pas occupé, et c'est ce que nous essayons donc de faire, donner une information qui soit aussi équilibrée que possible et idéologiquement neutre et qui rende compte le mieux possible du vrai visage de l'Afrique.
Donc dans ce centre, vous organisez actuellement des événements qui sont liés à l'Afrique. Y a-t-il actuellement des événements prévus ?
Oui. Actuellement, l'événement phare que nous organisons, c'est une conférence débat mensuelle sur l'actualité africaine. Et la prochaine édition va avoir lieu début avril. Et Cette fois-là, elle sera organisée en collaboration avec le Centre d'information des Nations Unies. Et chaque mois, nous avons un thème différent. Cette fois-ci, ce sera les défis des changements climatiques et le développement durable.
Dans ce centre, il y a aussi une bibliothèque. Est-ce que vous pouvez me dire quel type de livres peut-on trouver ? Est-ce qu'on peut les emprunter ?
Oui, nous avons effectivement une bibliothèque qui a à peu près 1500 volumes actuellement. Nous devons dire que la majorité de ce fonds est en anglais. À peu près 80% du fonds est en anglais. Nous avons graduellement des livres en tchèque, un tout petit peu en français, et parfois vous trouvez aussi un ou deux livres là en allemand et des magazines. Mais actuellement, c'est beaucoup plus en anglais. Quant au type de livres, en fait, vous trouvez toutes les sections, donc encyclopédie, littérature, donc des guides de pays, des questions comme l'économie, l'agriculture, la santé, le genre, etc., etc. On essaie de couvrir vraiment tous les domaines qui peuvent intéresser non pas seulement les étudiants, mais aussi les professionnels. La bibliothèque offre un abonnement d'une année. On peut s'abonner pour seulement les livres, mais nous avons aussi une petite bibliothèque qui offre un abonnement séparé.
Humanitas Africa organise aussi des cours de langue. Qu'est-ce que ces langues enseignées et pourquoi ce choix? Je sais que vous êtes l'un des enseignants aussi d'ailleurs.
Oui, les langues qui ont été choisies jusqu'à présent, c'est le Swahili et le Lingala. Pourquoi ces choix? Parce que le Swahili, c'est une langue majeure en Afrique. C'est la première langue, la langue, disons, qui est la mieux placée comme langue de travail des Nations Unies. Donc, le choix était clair. Quant au Lingala, c'est tout simplement du fait que, étant donné que nous nous occupons de la culture et que la musique est un des éléments culturels très importants, ben, le Lingala est une langue qui prend beaucoup d'importance avec la musique congolaise qui se répand assez bien en Afrique et qui est très appréciée dans toutes les parties de l'Afrique.
Et quel type et combien d'étudiants fréquentent ces cours?
Au semestre actuel, pour le cours de Swahili, il y a 6 étudiants. Pour le cours de Lingala, il n'y a pas encore d'inscription clôturée. Mais en moyenne, le cours de Swahili accueille en moyenne 5 étudiants. Nous avons eu des sessions avec 8 étudiants. Le cours de Lingala accueille entre 2 et 3 étudiants. C'est beaucoup moins demandé.
Savez-vous quelles sont les motivations pour apprendre une langue africaine?
Nous avons eu parmi nos étudiants des personnes qui voyagent régulièrement pour l'Afrique. Donc ça, c'était une raison assez pratique pour eux. Et il y en a qui étudient cette langue parce qu'ils font des études de lettres ou des sciences humaines et que ça rentre un peu dans l'extension, disons, de leur horizon professionnel.
Et votre association, pardon, propose également des programmes pour les écoles afin de faire la promotion de l'Afrique, comme on a déjà dit. Quel est d'habitude l'âge de ces enfants et en quelle langue se tient ces conférences et un peu plus en général, qu'est-ce que vous faites là-bas?
Nous faisons effectivement des programmes pour les écoles. Ces programmes portent un nom, c'est Une fenêtre sur l'Afrique. Et nous le faisons en général pour les écoles élémentaires et les écoles secondaires, donc approximativement des enfants de 6 à 19 ans. Et les programmes se déroulent majoritairement en langue tchèque. Nous offrons des présentations sur la vie courante dans un pays spécifique. Et cette présentation est faite par un ressortissant de ces pays-là, d'Afrique. Nous offrons aussi des ateliers de batterie, donc le tambour, de danse. Et puis, il y a des arts, des activités d'art, comme la peinture, le dessin, ou simplement des coloriages pour les plus petits enfants. Nous utilisons par exemple des dessins, des symboles de la spiritualité africaine. Et c'est ce que nous essayons d'expliquer aux enfants et souvent ça attire beaucoup l'attention. Sur demande, nous faisons aussi parfois des ateliers de cuisine où on prépare quelques plats africains. Et pour les plus grands étudiants, ceux du secondaire, nous avons aussi des exposés sur la littérature africaine, par exemple, ou un peu sur l'histoire, mais ça, c'est beaucoup plus rare, c'est vraiment sur demande. Et ce n'est que pour les étudiants des classes supérieures du lycée.
Parlons encore un peu de ces rencontres dans les écoles. Comment se passe-t-elle? Il y a des choses, des réactions d'enfants qui vous ont surpris, par exemple?
Oui. Il y en a, quoi. Il y a des réactions d'enfants qui posent parfois des questions sur, par exemple, comment sont les maisons dans lesquelles nous habitons. En fait, je pense que, etc., mais je pense que ce sont des questions qui souvent proviennent des préjugés que ces enfants ont reçus d'une manière ou d'une autre. Et c'est ainsi que nous essayons toujours d'utiliser aussi des images, donc de l'imagerie, des photos authentiques prises en Afrique, parfois des vidéos aussi, de telle manière qu'ils peuvent voir effectivement ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas.
Par exemple, quant à la géographie ou la situation actuelle en Afrique, est-ce que vous pensez que les élèves sont, bien les informations fournies aux élèves sont suffisantes ici dans les écoles tchèques?
Là où l'Afrique a été enseignée, les informations ont été correctes sur le plan encyclopédique, je dirais, parce que elles sont présentées justement d'un point de vue encyclopédique. Néanmoins, c'est comme nous l'avons dit, ces informations ne sont pas toujours équilibrées. Elles ne prennent pas toujours d'autres aspects qui pourraient contribuer à donner une image plus réaliste de l'Afrique. Néanmoins, que comme je l'ai dit, ce qui est encyclopédique, il est bien communiqué. Je dirais plutôt que l'Afrique n'est pas assez enseignée jusque dans les classes vraiment, disons, des classes terminales peut-être de l'école secondaire. Donc je pense que le problème, c'est plutôt la place trop faible accordée à la géographie ou à l'histoire de l'Afrique sur le programme. Mais quand le programme est là, il est plutôt bien enseigné.
C'est la fin de notre émission en français sur Radio Prague. Merci de l'avoir suivi. L'actualité en français sur la République tchèque, elle continue, vous le savez, sur notre site internet, le www.radio.cz/fr, mais aussi sur les réseaux sociaux. Rendez-vous sur notre page Facebook, mais aussi sur notre compte Twitter. Merci de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.